Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez trouver nos podcasts sur l'ensemble des plateformes, sur Deezer, sur YouTube, sur SoundCloud, etc. Et puis, vous pouvez aussi retrouver Conflit en kiosque avec actuellement un dossier qui est consacré à la Turquie d'Erdogan et au nouvel empire que veut bâtir Erdogan. Pour nous soutenir, vous pouvez bien évidemment vous abonner, ainsi vous ne perdrez aucun numéro et les abonnements nous permettent de vous proposer l'ensemble de ces contenus, nos émissions que vous retrouvez sur YouTube, nos podcasts et puis notre magazine et notre site internet. Je vous propose cette semaine de partir sur des sujets culturels. Nous aimons bien à Conflit traiter bien évidemment de relations internationales, de rapports de force entre les États, mais aussi de culture, d'art. Cela fait partie de la géopolitique, bien évidemment. Et un sujet culturel peut-être un peu original de prime abord, puisque nous allons parler de l'automobile. Et pourquoi l'automobile? Parce que nous avons tous en mémoire quelques voitures qui nous ont fait rêver. Généralement, ce sont les voitures de notre enfance. D'ailleurs, si on demande aux gens quelles voitures ils aiment, on sait souvent à peu près dans quelle décennie ils sont nés. Évidemment, l'automobile est liée au cinéma, qui n'a pas oublié la DS de Louis de Funès, par exemple, les 504 de Lino Ventura, pour ne prendre que des exemples français. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres exemples dans le cinéma américain ou dans le cinéma italien. Et puis, l'automobile est aussi liée à la puissance des États, à la puissance industrielle. On a coutume de considérer qu'en France, un emploi sur 10 est lié à l'automobile, des emplois directs ou des emplois indirects. Et on voit depuis quelques années une petite musique qui considère l'automobile comme étant un petit peu la cause de tous les maux, avec des maires qui font tout pour chasser l'automobile de leur ville et qui, se faisant d'ailleurs, chassent l'ensemble de la vie tout court, puisque l'automobile permet de circuler, permet de se déplacer, et cela a d'ailleurs eu de grandes incidences sur l'aménagement urbain. Mais nous allons parler aujourd'hui d'automobile, de ces belles voitures que l'on aime et qui nous font encore rêver. Et pour en parler, je reçois Thomas Morales. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes critique littéraire et vous avez publié en 2016 un ouvrage qui s'appelle « Mythologie automobile » dont la couverture d'ailleurs nous montre Lino Ventura à bord de sa Peugeot. Mythologie automobile, alors évidemment mythologie, ça fait toujours penser à l'ouvrage de Roland Barthes sur les mythologies, c'est un petit peu le terme classique. Et dans cet ouvrage, vous présentez différentes voitures. Alors il y a la déesse du général de Gaulle, bien évidemment. Il y a la voiture de James Dean ou de Steve McQueen. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cet ouvrage autour de ces mythologies de la voiture?
J'ai surtout voulu montrer que l'automobile nous a nourris, voilà. Nous a nourris intellectuellement, j'irais même presque dire spirituellement, voilà. Nous sommes tous des enfants de l'auto, et cet ouvrage, j'en ai fait un certain nombre autour de ce sujet-là. C'est un peu une forme de résistance, hein. Résistance à un rouleau compresseur qui voudrait, comme vous l'avez évoqué, supprimer, hein, rayer de la carte les automobiles. Alors moi, j'essaye de travailler plutôt sur l'angle culturel et de démontrer, exemple à l'appui, que l'automobile a été une source d'émerveillement et également d'émancipation pour énormément d'Occidentaux. Et dans cet ouvrage, je fais évidemment référence à quelques voitures de légende française ou étrangère.
On va revenir sur ces voitures justement, mais l'automobile, c'est quelque chose qui est assez récent, ça a à peine un siècle, les premières voitures. Il y a eu une très grande démocratisation après la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans les années 1960, enfin, du moins pour la France et pour l'Europe occidentale. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il y a cette diabolisation aujourd'hui? On l'accuse de tous les maux, de polluer, de faire du bruit, d'ailleurs des accusations qui sont parfois largement infondées, mais pourquoi est-ce que cet objet qui était vu comme, vous l'avez dit, un objet d'émancipation, de libération? Moi, quand j'ai passé le permis de conduire dans les années 2000, on m'expliquait que c'était la liberté de pouvoir conduire, et aujourd'hui, l'automobiliste est paré de tous les maux et est considéré comme un homme ou une femme qu'il faut exclure des villes et qu'il faut tout faire pour circuler à Paris comme dans les villes de province d'ailleurs.
Mais je crois que c'est plus ancien que ça. En réalité, la détestation, on va dire, j'oserais même dire la détestation intellectuelle de l'automobile, ne date pas d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, dans les faits, effectivement, on limite son usage, son stationnement, son utilisation, quotidienne, mais depuis très longtemps, notamment en France, hein, parmi les intellectuels, l'automobile n'a jamais eu une très très bonne presse. Hein. C'était un objet éminemment capitaliste, hein, qui a, avec lui, accompagné et entraîné les Trente Glorieuses. Donc, moi, je pense que l'automobile était partagée, enfin, l'espoir automobile était partagé par l'ensemble de la situation, mais déjà, une certaine élite l'avait dans le nez. Et là, ça s'est concrétisé ces dernières années. Mais vous avez eu raison. Le grand mouvement, on va dire, de démocratisation de l'automobile, c'est au lendemain de la guerre. Et c'est même là où, on va dire, les positions stratégiques des constructeurs se figent. Vous voyez, les constructeurs français vont, dès le lendemain de la guerre, se spécialiser dans les voitures populaires. C'est pour ça qu'on va avoir longtemps l'image de la petite voiture française. Ça démarre avec la 2 chevaux, la 4 chevaux, la 4L, l'R5, jusqu'à la 205 Twingo. Vous voyez, on a figé, on s'est spécialisé, quasiment tous les pays se sont spécialisés dans un type de véhicule. Les Français, avec on va dire trois grandes marques, Peugeot, Renault et Citroën, sont restés dans la voiture, on va dire, petite, voire moyenne. D'autres pays ont choisi d'autres stratégies industrielles.
Oui, c'est la belle anglaise et la voiture de luxe allemande contre la voiture populaire française,
Voilà,
la
alors.
R5 ou la 205, quoi.
Mais ça a été une grande réussite, hein. Nous avons inondé et on inonde encore le marché de nos petites voitures. Alors c'est vrai qu'on a perdu, moi qui suis attaché à l'objet automobile, au produit automobile, il est lié quand même au luxe ou au sport. Voilà, la passion des belles voitures, elle est peut-être plus difficile à irriguer la population avec des voitures populaires. C'est pour ça que les Italiens ont gardé quelques marques de sport, Ferrari, Maserati, les Anglais avec Jaguar, Bentley, Rolls, et les Allemands qui se sont spécialisés dans le haut de gamme, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le premium. C'est aussi pour ça que dans ces pays-là, je dirais que la passion automobile est plus vivace et elle touche toutes les catégories, on va dire, socio-professionnelles. En Angleterre ou en Allemagne, aussi bien des gens du peuple que des élites peuvent avoir un amour inconsidéré pour l'automobile. Chez nous, en France, on est déjà un peu sur une voie de garage quand on ose affirmer qu'on aime l'objet automobile.
Est-ce que c'est pas aussi une détestation de ce qui est populaire finalement? Les élites qui peuvent circuler à vélo ou à métro n'aiment pas le côté populeux de
Bien
la
sûr.
205 diesel ou de la
Bien
aujourd'hui
sûr.
de la Peugeot diesel qui est considérée comme enfin, c'est un peu une haine du pauvre qui dit pas son nom mais.
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Et il y a un retour fracassant, on va dire, du réel, quasiment depuis le mouvement des Gilets jaunes et depuis cette année avec cette pandémie. C'est qu'en dehors on va dire, des grandes agglomérations urbaines, sans la voiture, hein, la plupart des ménages français sont morts. Voilà. Et ça, les gouvernants l'ont pas tout à fait intégré dans leur façon de penser ou d'imaginer ce qu'on appelle un peu pompeusement la mobilité. C'est-à-dire que vous habitez dans une zone rurale en France, sans la voiture, vous ne pouvez pas accéder à l'hôpital qui va être à 25, 30 ou 40 km, au lycée de vos enfants, participer à des activités culturelles ou sportives. L'automobile est assez essentielle pour à peu près 80% des Français. En ville, évidemment, en ville, on peut s'en lasser. Encore faut-il que les édiles municipaux mettent en place des transports en commun extrêmement efficaces, rigoureux, sécurisés. Et vous savez très bien que les Franciliens n'ont pas toujours accès à des moyens de transport en commun d'une très très grande qualité.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, on a eu aussi en France des voitures de luxe, je pense à Bugatti par exemple, Panhard. Renault aussi a essayé avec Alpine, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette disparition de la voiture de luxe en France?
On va dire que les grandes marques de luxe françaises datent des années 30. Voilà, la belle automobile, l'âge d'or de l'automobile avec énormément de carrossiers. Vous avez cité Bugatti, mais vous avez Delage, Delahaye, Hispano-Suiza, énormément de très belles marques qui ont disparu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que les constructeurs se sont spécialisés, ils ont outillé leur appareil industriel pour fabriquer des voitures de masse. Ne sont restées finalement que quelques années après-guerre, quelques marques, on peut citer Facel Vega, qui est peut-être la dernière grande marque française qui a vécu jusqu'aux années 60, avec de très très belles voitures motorisées par un gros moteur V8 américain. Alors Alpine, c'est un peu particulier. Alpine, on va dire, c'est la branche sportive de Renault. Et il y a une renaissance d'Alpine depuis quelques années. Vous avez les gens de mon époque ont connu la fameuse Alpine Berlinette qui a gagné le rallye de Monte Carlo. Elle existe aujourd'hui. Voilà. Il y a quand même eu une tentative de faire renaître ce mythe automobile. Mais c'est chez les passionnés, Alpine, c'est très très présent encore dans leur esprit. Et également, pour tous ceux qui s'intéressent au sport mécanique, notamment aux courses d'endurance, vous voyez, les 24 heures du Mans, les 24 heures du Mans ont une aura planétaire. En France, on en parle rarement, à la télévision, dans les médias, et pourtant, les Américains, les Anglais sont complètement fous des 24 heures du Mans, et il y a une marque, Matra, qui a obtenu de jolis résultats. On est là dans les années 60-70 avec des voitures bleues qui sont restées aussi dans la mythologie des sports mécaniques français.
Oui, justement, je voulais vous interroger sur les 24 heures du Mans parce que on a tous plus ou moins lu Michel Vaillant. Enfin, ouais. Dans les années 60-70, c'était un grand moment populaire. Même encore, il y a des milliers de personnes qui assistent aux 24 heures du Mans. Et pourtant, on n'en parle pas. C'est quand même aujourd'hui en France, enfin encore aujourd'hui, ça reste un des événements sportifs où il y a le plus de monde qui assiste. Et on n'en parle pas à la télévision.
Alors, c'est retransmis quand même. Il faut avouer que sur le service public, alors c'est pas retransmis en intégralité, mais finalement, depuis quelques années, il y a quand même une fenêtre sur les 24 heures du Mans, mais vous avez raison, c'est complètement légendaire. Regardez le film qui est sorti l'année dernière. Voilà, alors le Mans classique, c'est énormément d'épreuves historiques avec des voitures anciennes qui se passent au Mans, mais la lutte qu'il y a eu dans les années 60 entre Ferrari et Ford, entre Enzo Ferrari et Henry Ford, sur les 24 heures du Mans, ça reste la grande histoire de l'automobile. Il est vrai que si les constructeurs français n'engagent pas réellement, puissamment des voitures, ça passe un peu au second plan. Regardez les années 80. Où Renault, Ligier, Renault sont extrêmement présents en Formule 1 et avec aussi énormément de pilotes français. Vous voyez, on a vécu une décennie avec mais des dizaines de pilotes français. Souvenez-vous, Jean-Pierre Jabouille, Pironi, Lafitte, Prost, Arnoux, voilà, Patrick Tambay. Le sport mécanique de façon générale et la Formule 1 ont aussi un peu disparu des radars. Le championnat existe encore, évidemment, mais la médiatisation est un peu moins forte.
Oui, on l'a vu avec Sébastien Loeb, qui est un immense champion. Il a gagné combien, une dizaine de championnats du monde.
Oui.
Et bon, son aura médiatique n'est pas énorme par rapport à, compte tenu de l'exploit que ça représente quand même d'avoir gagné autant de championnats du monde de course automobile.
Oui, il y a toujours un frein avec cet objet automobile qui est peut-être trop populaire, voilà. Il y a quelque chose de trop populaire qui est aussi j'ose le dire, l'expression presque ultime du désir. Il y a quelque chose comme ça avec l'auto. Alors, c'est pas très politiquement correct de le dire, mais il y a un plaisir de conduire, voilà. Et ce plaisir-là, on peut difficilement l'avouer, hein, sous peine d'être fortement tensé, hein, par justement les élites médiatiques. Chacun a eu des émotions. Et quand je parle d'émotion, ça ne veut pas dire de rouler à des vitesses inautorisées, hein, sur les routes. Mais il y a quelque chose de très particulier, voilà, qui se passe quand vous êtes au volant. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément de road movie au cinéma, une ambiance particulière dans ce cocon qui est l'automobile avec la musique. On peut aussi, je l'ai écrit quelquefois, on peut aussi s'extraire de la société en étant à l'intérieur de sa propre voiture. Ça paraît paradoxal, mais on peut, c'est aussi un objet à fantasme, on peut se désolidariser un moment, pendant un temps, de cette société qui voudrait qu'on marche tous d'un même pas.
Alors, on va évoquer quelques figures mythiques. Commençons par le cinéma français, puisque il y a tellement de belles choses, c'est bien aussi de les redécouvrir. Puis je pense aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est peut-être des noms qu'ils ont un peu oubliés. Alors on va commencer par ce que l'on voit sur la couverture de votre ouvrage. Je rappelle le titre, Mythologie automobile, Lino Ventura, grand acteur des années 70. Et beaucoup de films de Lino Ventura se passent avec l'automobile comme décor quasiment. Enfin, c'est un acteur l'automobile dans le film de Ventura.
Oui. Effectivement, dans tous ces films qui sont à la fois des films policiers ou des comédies policières aussi, ou des films un peu d'action, c'est un mélange dans les années 60, la voiture est partout. Et ce qui est aussi assez extraordinaire, elle est autant présente dans le cinéma, hein, on la voit chez Godard, chez Truffaut, que dans le cinéma extrêmement populaire, chez Lautner, chez Houry. Alors, sur la couverture de Mythologie automobile, c'est la Peugeot 404 que Lino utilise dans Les Tontons Flingueurs. Voilà, c'est les premières scènes des Tontons Flingueurs. Il va faire Montauban en Paris au volant de cette 404. Alors la 404, c'est une voiture qui est sortie en 1960, qui a une longue carrière chez Peugeot, qui a longtemps été au catalogue Peugeot, qui a été déclinée en de multiples carrosseries, en berline, en break, en coupé, en cabriolet, en pick-up. C'est une voiture qu'on a longtemps vue aussi après en Afrique, hein, dans le Maghreb. Donc elle a cette 404, elle est assez œcuménique, je dirais, parce que elle évoque pas mal de souvenirs à des Français de générations un peu différentes. C'est ça aussi le plaisir avec les voitures, c'est que selon au fil des années, elle recueille un public qui est assez différent. C'est un peu la même chose avec la Citroën DS. Vous voyez, la 404, quand elle est sortie en 1960, c'est une voiture bourgeoise, hein, c'est une voiture c'est la voiture du médecin de campagne. Et puis elle va tellement avoir une longévité incroyable qu'au fur et à mesure des versions et des voitures d'occasion, elle va être pour 10 ans après, elle va être la première voiture pour des ménages modestes. C'est un peu la même chose avec la DS. La DS est sortie en 55. En 55, peu de gens peuvent s'offrir une Citroën DS. C'est vraiment un concentré de technologie. Mais 20 ans après, vous allez voir la DS. C'est pour ça qu'on la voit dans les valseuses avec Depardieu et Devers, dans un autre rôle presque sociologique.
Et la DS, effectivement, on la voit dans de nombreux films. Il y a évidemment les films de Louis de Funès, mais pas que, c'est la grande voiture des années 70 aussi.
Ben, oui, c'est la voiture qu'on dirait aujourd'hui statutaire. Donc, c'est une voiture qui a peuplé les routes françaises. C'est la voiture des gouvernements, hein, voilà. Même en dehors du général et du fameux attentat du petit Clamart, longtemps les DS ont équipé les les ministères. Elle a fait pas mal de résistance. Il a fallu attendre l'arrivée de la CX, mais c'était bien après. C'était quasiment une petite vingtaine d'années après. Alors la DS, bon, on la voit partout. Alors, c'est vrai qu'elle a figé la mémoire des cinéphiles, beaucoup avec de Funès, hein, de Rabbi Jacob en passant par la série les Fantomas, et puis il faut dire que c'est une voiture. Là aussi, moi qui suis attaché à l'identité stylistique des automobiles, on a vécu quand même ces 30 glorieuses, c'était quand même une période féerique pour les voitures. Vous voyez, chaque marque possédait à son catalogue une voiture avec un ADN qui lui était propre. Vous voyez, la DS chez Citroën ou la Peugeot 404 chez Peugeot, c'est deux visions complètement, radicalement différentes de l'automobile. Donc, il y avait une sorte de diversité, hein, voilà, un mot, une pluralité des modèles qui aujourd'hui, évidemment, a complètement disparu.
Oui, j'allais y venir justement. Alors, il y a la partie intérieure des automobiles qui sont quand même de plus en plus ressemblantes. Bon, c'est l'évolution technique, mais en matière de carrosserie, on a quand même plus de mal aujourd'hui à faire des distinctions des voitures quand elles passent dans la rue. Il y a une sorte d'uniformisation. Bien on sûr. A plus de mal à les distinguer.
Eh oui, on va dire que la conséquence d'une mondialisation, c'est l'homogénéisation des goûts, hein, voilà, et des formes. Finalement, la plupart des constructeurs travaillent avec les mêmes gabarits. Vous voyez, pour ça, l'explosion depuis une dizaine ou une quinzaine d'années des SUV, hein, ils ont une très très mauvaise presse ces derniers temps parce qu'ils sont lourds. Ils consomment pas mal et ils rejettent évidemment pas mal de pollution. Mais les SUV, c'est très difficile de faire la différence entre un SUV français, allemand ou japonais. Alors, il faut remonter au moins jusqu'aux années 70 pour avoir des propositions de style et de design clivantes. Voilà, hein, clivante. Les voitures italiennes ne ressemblaient pas aux voitures allemandes, qui ne ressemblaient pas aux voitures françaises. Et à l'intérieur de chaque pays, vous aviez des typologies de voitures qui étaient vraiment vraiment incroyables. Si on reprend l'exemple des voitures françaises, longtemps Citroën, hein, Citroën qui est une marque qui a beaucoup beaucoup de passionnés, hein, faisait des propositions mais très audacieuses. Très très audacieuse. La DS, mais après la DS, vous avez la CX, même la BX. Voilà, il y a un retour finalement du design de la BX, une voiture des années 80. On pensait pas un jour que les gens et une partie des collectionneurs commenceraient presque à s'amouracher de cette voiture-là parce qu'elle répond à son époque. Elle a un design assez anguleux des années 80. Aujourd'hui, on va dire que en exagérant un peu, en poussant un peu, elles se ressemblent presque toutes. Donc la passion disparaît forcément.
Il y avait la Twingo. Renault avait été extrêmement audacieux. D'ailleurs, cette voiture.
Très très audacieux.
La nouvelle forme de la Twingo, d'ailleurs, est beaucoup plus consensuelle.
Ouais. Non, c'est d'ailleurs, peut-être. Vous avez complètement raison. Peut-être chez les constructeurs français, hein, la Twingo est la dernière petite voiture, hein, citadine, à oser à la fois un intérieur et un extérieur extrêmement audacieux. Moi, je me souviens quand elle est sortie, d'abord avec cette gamme de couleurs, hein, des couleurs pastels, et puis l'intérieur, c'est une voiture qui me rappelle les débuts de la Renault 5. C'est une voiture que j'adore, la Renault 5. La première série des Renault 5, on est au début des années 70. Alors, c'est pareil, la Renault 5, elle peuple la plupart des films français des années 70 et 80. Mais souvenez-vous de cette Renault 5 qui existait en couleur orange. C'est vraiment une voiture pop, hein, avec un intérieur en sky orange, voiture toute ronde. Et la publicité de l'époque avait traité ce lancement sous la forme d'une bande dessinée. C'était là aussi, pareil, le produit s'uniformise, les publicités, on ose à peine montrer des véhicules à l'écran, mais il y avait pareil, les agences de pub dans les années 70 ou 80 osaient des choses qui aujourd'hui seraient réprimées par la loi fortement.
Pourtant, c'était un grand succès. La Twingo, finalement, quand elle est sortie, les gens étaient un peu curieux, récriminés. C'était un très gros succès pour Renault et la R5 aussi.
Oui, des succès commerciaux très importants. Surtout que souvent, il y a des stratégies, évidemment, hein, commerciales et marketing, et on imagine toucher une certaine cible, on va dire, d'acheteurs. Et ça a été le cas avec la Twingo. On s'imaginait peut-être toucher la jeunesse française, et finalement on a vu qu'on a essaimé quasiment dans toute la population des gens plus âgés, des couples de retraités, et c'est devenu une voiture des gens aux revenus extrêmement variés. Ce sont des voitures avec une couverture sociologique quasiment globale. Vous avez raison, c'était vrai avec la R5, c'était vrai aussi avec la 4L et la 2 chevaux, qui sont vraiment, vous voyez, la 4L et la 2 chevaux sont encore des voitures qui ne sont pas oubliées, hein, dans l'imaginaire français. Depuis la Twingo, ça devient plus compliqué de différencier les voitures, c'est sûr.
Alors, on va revenir un petit peu au cinéma, parce que ça contribue évidemment à notre mémoire, parce que même des voitures qu'on n'a pas forcément connues, on les voit dans les films. La plupart des grands acteurs sont associés à des voitures. Alors, évidemment, on pense à Steve McQueen et James Dean, c'est un petit peu la tarte à la crème ou l'impératif par lequel on doit passer. Mais on a des acteurs qui ont construit leur carrière autour de l'automobile, et l'image de l'un, enfin, leur image personnelle a reflété sur l'image de la voiture, et à l'inverse, l'image de la voiture a reflété aussi sur la vision de ces acteurs.
Ah, c'est sûr, c'est évident. Alors, surtout aux États-Unis, bon, Steve McQueen sera attaché, lié, hein, à la Ford Mustang, voilà, jusqu'à la fin des temps. On n'imagine pas Steve McQueen sans cette Mustang verte, parce qu'elle est verte, hein, dans Bullitt. C'est un coupé, un fastback, 390 GT. C'est une superbe voiture, et tout le monde a à l'esprit la course poursuite dans les rues de San Francisco. Mais Steve McQueen a été un amateur de voitures. Il a eu dans sa propre collection beaucoup de très très belles voitures. Il y a énormément d'images d'époque, d'archives, où on le voit au volant d'une Ferrari 250 GT Lusso, une Mini Cooper, une AC Cobra, et puis après des motos, parce que c'était vraiment un mordu de sport mécanique. La preuve, il s'est engagé complètement en tant que producteur dans le film Le Mans, qui mérite d'être vu plus comme un documentaire sur la course du Mans dans les années 70 que comme une fiction. Et James Dean, bah, la légende James Dean, évidemment, elle est attachée à ce speedster Porsche. Lui aussi était un pilote. Ces deux grands acteurs étaient à la fois d'immenses acteurs d'Hollywood, mais de très très bons pilotes, surtout McQueen. Et je veux rajouter un troisième qui a même eu une écurie de course automobile, c'est Paul Newman. Newman est aussi un grand grand passionné de voitures. Alors la Mustang a aussi sa version française, cinématographiquement parlant. Il s'agit d'un homme et une femme, avec de Claude Lelouch, avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée.
Eh bien, merci beaucoup, Thomas Morales, d'avoir évoqué avec nous l'automobile et sa présence dans les films. Je rappelle votre ouvrage « Mythologie automobile » qui est paru chez l'éditeur. Et puis, on peut vous retrouver dans différents médias, dont Causeur, sur lesquels dans le magazine duquel vous publiez beaucoup d'ouvrages. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, où vous aurez ainsi les références du livre et des éléments que nous avons évoqués au cours de cette émission. Merci pour votre fidélité. Et puis, vous pouvez bien évidemment nous retrouver en kiosque avec notre numéro qui est consacré ce mois-ci à la Turquie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.